Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée vendredi 24 septembre, notamment par les audiences du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Rwanda, en Côte d'Ivoire, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape a reçu en audience vendredi matin au Vatican Monseigneur Paolo Pezzi, archevêque de la Mère de Dieu à Moscou en Russie. Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique en République démocratique du Congo. Monseigneur Valdemar Stanislao Sommertag, nonce apostolique au Nicaragua. Monseigneur Andrei Yosovski, nonce apostolique en Iran. Monseigneur Daniele Libanori, évêque auxiliaire de Rome. Le pape a également rencontré le secrétariat du synode franciscain d'évangélisation des frères mineurs d'Italie centrale. Le pape François a reçu en audience, toujours vendredi matin, Monseigneur Raphaël Bedros, 21 Minassian, le nouveau patriarche de Cilicie des Arméniens, élu à l'issue du synode de l'Église catholique arménienne qui s'est tenu ces jours-ci à Rome. À l'occasion de cette audience, le pape François a adressé une lettre au nouveau patriarche pour lui accorder la communion ecclésiastique. Je souhaite m'unir à la joie des fils et des filles de cette Église et de l'Église universelle qui ont tant accompagné de leurs prières les évêques réunis d'abord au Liban au début de l'été et ces jours-ci à Rome au Collège pontifical arménien, explique le pape. François rappelle l'importance de cette élection qui intervient à un moment où les gens sont particulièrement éprouvés par divers défis. Je pense aux souffrances de la Syrie et du Liban, pays où l'Église de Cilicie des Arméniens est présente, ainsi qu'à la pandémie qui, dans de nombreuses régions du monde, est encore loin d'être vaincue. Tous les hommes de bonne volonté, en particulier les chrétiens, sont appelés à être des voisins et des frères en surmontant l'indifférence et la solitude. Le Saint-Père rend aussi hommage aux souffrances du peuple arménien. Nous connaissons le peuple arménien comme un expert de la souffrance. En raison des nombreuses épreuves subies tout au long de plus de 1700 ans d'histoire chrétienne, mais aussi en raison de son épuisable capacité à s'épanouir et à porter du fruit, écrit-il. Confiant au nouveau patriarche le soin des jeunes générations, la promotion des vocations, la sage harmonie que vous devez pouvoir trouver entre les différentes instances de votre communauté, François forme le vœu que sous l'impulsion de nouveaux patriarches Minassian, l'Église de Cilicie des Arméniens puisse poursuivre sur le chemin de la fraternité authentique et du dialogue œcuménique avec nos frères et sœurs de l'Église apostolique arménienne. Le cardinal Jorge Liberato Urrosa Savino, archevêque émérite de Caracas, est décédé jeudi 23 septembre à l'âge de 79 ans dans l'unité de soins intensifs de la polyclinique de Caracas. Le pape François a adressé ses condoléances aux proches du défunt dans un télégramme. Le cardinal Jorge Liberato Urrosa Savino est né à Caracas le 28 août 1942, ordonné prêtre le 15 août 1967 dans la capitale vénézuélienne. Il a obtenu une licence et un doctorat en théologie à l'Université pontificale grégorienne de Rome. Il a été vice-recteur 1971-1974, puis recteur 1974-1976 du séminaire San José à El Hatillo et recteur du séminaire interdiocésain de Caracas de 1976 à 1982. Fondateur du Centre d'évangélisation de la Sainte Trinité et du vicariat religieux Casa de Tabla à Petare, 1971-1982, il a été professeur d'anthropologie philosophique au séminaire interdiocésain de Caracas, professeur de théologie dogmatique au séminaire Santa Rosa de Lima à Caracas et au centre d'études religieuses. Il a occupé diverses fonctions pastorales, président de l'organisation des séminaires vénézuéliens, vice-président de l'organisation des séminaires latino-américains et notamment membre du conseil presbytéral de l'archidiocèse de Caracas. L'Église qui est au Sénégal célèbre cette année le centenaire de la naissance du cardinal Hyacinthe Tiandoum, né le 2 février 1921 à Popengine et nommé le 4 avril 1962 premier archevêque autochtone de Dakar. Une messe d'action de grâce pour la circonstance est célébrée samedi 25 septembre en la basilique Saint-Pierre à Rome. Son successeur, Mgr Benjamin Ndiaye, nous indique ce qu'il retient du cardinal Tiandoum.
Ce que je retiens de lui, c'est qu'il a dû faire face à une organisation d'un diocèse assez vaste. Il va contribuer d'ailleurs par sa connaissance du milieu à la division de ce diocèse. Il en naîtra en 1969, c'est-à-dire 7 ans après qu'il est devenu archevêque de Dakar, un nouveau diocèse, le diocèse de Thiès. Nous gardons de lui le souvenir de quelqu'un qui avait une expérience de terrain, ayant été en mission dans le secteur rural, parlant plusieurs langues du pays, étant aussi ouvert à l'apostolat de laïcs, puisqu'ayant travaillé à la centrale qu'on appelait la direction des œuvres. C'est donc quelqu'un qui est outillé sur le plan pastoral pour mener sa tâche, d'autant plus que tout cela avait été précédé par des études en sciences sociales à Rome. C'est de ce pasteur-là que nous héritons en 1962. C'était une grande fête, je m'en souviens, j'étais encore enfant, mais j'ai pu venir à la cathédrale de Dakar pour vivre cet événement. J'avais alors 10 ans, j'en rends grâce à Dieu.
C'était Mgr Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Il nous parlait du centenaire de naissance de son prédécesseur, cardinal Hyacinthe Tiandoum, propos recueilli par Donatien Niembo. L'actualité de l'Église nous conduit à présent en République démocratique du Congo, où l'évêque de Mahagui-Nioka a dispensé une catéchèse sur l'Eucharistie.
L'évêque de Mahagui-Nioka, Mgr Sosthène Ayekoli, demande aux jeunes de faire du Christ présent dans le tabernacle leur repère, la boussole de leur vie personnelle et communautaire. L'évêque s'adressait aux jeunes lors de la catéchèse dispensée aux 17e journée diocésaine de la jeunesse tenue du 16 au 19 septembre à la paroisse bienheureuse Anoirité d'Aïforo. Mgr Sosthène Ayekoli a instruit les jeunes sur le sacrement de l'Eucharistie dans sa place, ses dénominations et ses effets. L'Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne. La vie des jeunes, comme chrétiens, trouve force à partir de l'Eucharistie. L'évêque a expliqué que l'Eucharistie porte comme nom action de grâce pour les merveilles accomplies par Dieu, repas du Seigneur par allusion à la Sainte Cène, communion au Christ et à l'Église, Sainte Messe comme pour signifier mission, témoignage, vécu et mise en pratique de ce qui vient d'être reçu. L'évêque de Mahagui-Nioka a aussi, par exemple, rappelé que les sacrements en général opérés au nom du Christ sont efficaces indépendamment de la sainteté des ministres, notamment le prêtre qui célèbre la messe. Jean-Baptiste Malinge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le président rwandais Paul Kagame a débuté vendredi une visite de 2 jours dans le nord du Mozambique au cours de laquelle il rendra visite aux milliers de soldats rwandais déployés pour aider Maputo dans sa lutte anti-djihadiste. Le Rwanda a été en juillet le premier pays africain à envoyer des troupes pour soutenir l'armée mozambicaine dans sa lutte contre une insurrection djihadiste dans la province de Cabo Delgado qui abrite l'un des plus importants projets de gaz naturel liquéfié d'Afrique. La dépouille de l'ancien premier ministre ivoirien Charles Konan Bani, décédé le 10 septembre à Paris des complications liées à la COVID-19, est arrivée jeudi soir à Abidjan, accueillie par une foule de parents et d'amis. au son de tam-tam parleur. Le cercueil en bois ciré du défunt a été exposé pendant quelques minutes sur le parvis de l'aéroport en présence de l'ex-chef du gouvernement ivoirien Daniel Camblanc-Duncan et de plusieurs personnalités. Après une brève office religieuse, un impressionnant cortège s'est ébranlé vers la résidence du défunt à Cocody, quartier chic d'Abidjan. Des milliers de litres de carburant de contrebande en provenance du Nigeria ont été saisis au Burkina Faso et 72 suspects interpellés dans le cadre d'une opération de démantèlement de ce vaste trafic. C'est ce qu'a annoncé jeudi le parquet. Le carburant proviendrait du Nigeria en passant par le Bénin pour être stocké à Kwalou dans l'est du Burkina Faso et pour ensuite inonder plusieurs villes du pays dont la capitale Ouagadougou, a expliqué le procureur du Burkina Faso, Haruna Yoda. Il s'agit de plusieurs milliers, voire de centaines de milliers de litres de carburant qui ont été saisis lors de l'opération avec des stations-service et des dépôts mis sous scellé, notamment à Ouagadougou, Kombisiri, Kaya, a précisé une source judiciaire. Les 72 personnes interpellées lors de cette large opération menée du 17 au 20 septembre ont été placées en garde à vue et une enquête ouverte pour contrebande aggravée, blanchiment de capitaux et corruption. L'autorité de lutte contre la corruption avait reçu une dénonciation rapportant des faits de contrebande de carburant à grande échelle, point de départ de l'immense saisie.
Radio Vatican, France et Afrique. Marie-Josée Moindo.
Toute ingérence extérieure, d'où qu'elle vienne, pose problème très sérieux pour la stabilité et la sécurité de mon pays. C'est ce qu'a déclaré jeudi le chef de la diplomatie du Tchad, Chérif Mahamat Zené, à propos de l'implication de la société privée Wagner en Afrique. Tout sera mis en œuvre pour que le Tchad soit protégé sur toute l'étendue de son territoire, a-t-il ajouté après avoir rappelé les attaques subies par son pays. En avril et mai, c'était lors d'un entretien avec les médias à marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le premier ministre suédois Stefan Löfven a appelé jeudi à la libération du journaliste suédo-érythréen Dawit Isaak, emprisonné sans procès en Érythrée depuis 2001, promettant que son pays ne l'abandonnerait jamais. Mon gouvernement, comme plusieurs autres précédemment, ont travaillé intensément sur le cas de Dawit. Notre travail n'a pas eu jusqu'à présent le résultat que nous souhaitions, mais nous n'abandonnerons jamais, a déclaré le Premier ministre suédois Stefan Löfven dans un message publié sur les réseaux sociaux. Dawit Isaak est un citoyen suédois et notre objectif très clair est qu'il soit libéré, il doit retrouver sa famille en Suède, a-t-il plaidé. Reporters sans frontières a renouvelé son appel à la justice suédoise pour enquêter pour crimes contre l'humanité dans cette affaire en vertu d'une loi adoptée en 2014 et permettant de saisir la justice suédoise pour ce type de crime commis à l'étranger. Reporters sans frontières international avait déjà déposé plainte en octobre 2020 en Suède contre des responsables érythréens dont le président Isaias Afwerki. Mais le parquet suédois avait refusé d'ouvrir une enquête, jugeant les chances de succès trop faibles. Reporters sans frontières demande que le ministère public prenne ses responsabilités internationales et ouvre une enquête préliminaire pour crimes contre l'humanité dans le cas de Dawit Isaak, a une nouvelle fois demandé jeudi le groupe dans un communiqué.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur l'actualité internationale de la semaine avec Françoise Niamien.
Dans le cadre de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. La Banque centrale chinoise a déclaré vendredi inégale à toutes les transactions en crypto-monnaie. Un gangster notoire accusé d'avoir extorqué des hommes d'affaires dans le nord de l'Inde figure parmi les trois morts dans une fusillade qui a éclaté dans un tribunal de New Delhi vendredi, selon la police. Arrêté en Sardaigne, l'eurodéputé indépendantiste et ex-président catalan Carles Puigdemont a passé la nuit de jeudi à vendredi en prison et attendait de passer devant la justice italienne qui devra déterminer si elle l'estrade ou non en Espagne où il est toujours poursuivi pour son rôle dans la tentative de sécession de 2017. Les gardes frontières polonais ont annoncé vendredi le décès d'un migrant à la frontière du Bélarus, ce qui porte le bilan à 5 morts depuis le début de la crise migratoire cet été dans l'est de l'Union européenne. Pouvoir et opposition vénézuélien se retrouvent dans une tension grandissante ce vendredi à Mexico pour un troisième cycle de négociations qui doit aborder le thème sensible du respect de l'état constitutionnel de droit. Une soudaine tempête a coûté la vie à 5 personnes qui effectuaient l'ascension du mont Elbrus, la montagne la plus haute d'Europe, dans le Caucase russe, ont indiqué vendredi les services de secours. L'émissaire américain en Haïti, Daniel Furt, avait démissionné jeudi dénonçant dans une lettre les expulsions inhumaines par les États-Unis de milliers de migrants haïtiens vers leur pays en proie à la terreur des gangs armés. Par ailleurs, la France avait remis la pression sur la relation transatlantique jeudi au lendemain de l'explication entre les présidents français Emmanuel Macron et américain Joe Biden, martelant que la crise avec les États-Unis n'était pas terminée et que Washington devait encore donner des gages de confiance. L'Ukraine avait adopté jeudi une loi dans l'espoir de juguler l'influence des oligarques au lendemain d'une tentative d'assassinat visant un conseiller présidentiel qui, selon les autorités, pourrait être lié à la lutte contre ces puissants hommes d'affaires. La Commission européenne avait proposé jeudi d'imposer un chargeur universel pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques au nom des droits des consommateurs et de l'environnement, un projet qui suscite l'opposition du géant américain Apple. Une semaine après le dépôt d'un recours par l'Arménie contre l'Azerbaïdjan devant la Cour internationale de justice, Bakou avait saisi à son tour jeudi l'organe judiciaire principal de l'ONU contre sa voisine, l'accusant de discrimination raciale et de nettoyage ethnique. La coulée de lave d'un volcan entré en éruption dimanche sur l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, n'avançait plus que lentement mercredi après-midi, à tel point qu'il n'était plus certain qu'elle atteigne l'océan Atlantique. Ce pourrait être une avancée majeure dans la recherche des origines de la COVID-19. Des chercheurs de l'Institut Pasteur avaient identifié mercredi dans le nord du Laos des virus proches du SARS-CoV-2 chez des chauves-souris capables d'infecter l'homme. L'opposition russe a dénoncé lundi des fraudes massives aux législatives qui ont vu le parti du Kremlin rafler une super majorité des 3/3 du point final d'un scrutin sur mesure dont avaient été exclus les détracteurs de Vladimir Poutine. Le Parlement libanais, réuni en séance plénière, a accordé lundi sa confiance au nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Najib Mikati, dont la principale mission sera de stopper l'effondrement du pays en pleine crise. Le Royaume-Uni avait écarté lundi tout risque d'une rupture de ses approvisionnements de gaz naturel à l'approche de l'hiver, au moment où la flambée des cours a provoqué la faillite de plusieurs petits distributeurs britanniques.
Françoise présente également la rubrique sur le sport.
Commençons notre rubrique du jour consacrée au sport par la Côte d'Ivoire qui sera contrainte de recevoir le Malawi à Cotonou au Bénin le 11 octobre prochain lors de la 4e journée des qualifications pour le Mondial 2020 de football, faute de stade aux noms dans le pays. C'est ce qu'a indiqué la Fédération ivoirienne de football, FIF, qui a choisi le Bénin pour accueillir ses prochaines rencontres des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde 2020. 2022 qu'organisera le Qatar en exécution de la décision de la Confédération africaine de football, CAF. Ainsi, la Fédération ivoirienne a décidé que la Côte d'Ivoire accueillera ses matchs sur le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou et tout est mis en œuvre afin que tout se déroule bien pour notre équipe nationale, a révélé mercredi 22 septembre à Abidjan la directrice de la communication au ministère de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Yaolidi Dogba. Le stade de Yamoussoukro était une solution palliative proposée par la Fédération ivoirienne de football. Cependant, la mission d'inspection de la CAF a conseillé à la Côte d'Ivoire de poursuivre les travaux et de choisir sous 48 heures l'un des stades homologués à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour recevoir ces matchs. Ce qui a été fait, a déclaré Madame Yao. Après deux journées, la Côte d'Ivoire est en tête d'un groupe D serré avec 4 points, une unité devant le Cameroun et le Malawi, tandis que le Mozambique ferme la marche avec 1 point. L'Afrique du Sud est intéressée pour accueillir la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en décembre prochain. La Fédération des Bafana Bafana souhaite profiter du retrait du Japon en raison de la COVID-19 pour reprendre l'organisation de la compétition remportée l'an passé par les Allemands du Bayern de Munich. Le président de la Fédération sud-africaine, Danny Jordan, doit rencontrer la secrétaire de la FIFA, Fatma Samoura, à Lagos au Nigeria, l'occasion d'avoir tous les détails sur cette compétition qui réunira le vainqueur de la Ligue des champions européennes, Chelsea FC, aux autres champions continentaux ainsi qu'aux champions du pays hôte. Au Cameroun, Samuel Eto'o a officialisé sur les réseaux sociaux le 21 septembre dernier sa candidature à la présidentielle de la Fédération camerounaise de football. Il est temps de reconstruire notre football. Nous ne pouvons pas retarder la refonte de notre sport numéro 1, assure l'ex-attaquant vedette de l'équipe nationale du Cameroun, également ex-attaquant de Barcelone, passé aussi par l'Inter Milan, Chelsea et le Real Madrid, entre autres aujourd'hui âgé de 40 ans. L'élection du patron de la Fédération camerounaise de football est prévue le 11 décembre 2021. 9 mois après avoir été touché par la COVID-19, l'Éthiopien Kenenis Bedeke espère s'attaquer dimanche à 39 ans au record du monde du marathon à Berlin qu'il avait manqué pour 2 secondes en 2019. Direction Italie où les Kenyans ont survolé le marathon de Rome le dimanche 19 septembre dernier. Chez les hommes, Clément Langat Kripono s'est imposé en 2h08min22s. Il devance le coureur tanzanien Emmanuel Naibei et l'Éthiopien Ulfata Deressa Djeleta. Du côté de l'épreuve féminine, la course a d'abord été menée par l'athlète kényane Judith Jurubé avant que sa compatriote Pélis Cherino-Legat ne prenne l'avantage sur la dernière ligne droite, une victoire à décrocher en 2h29min29s. Cette année, 7500 personnes de 60 nationalités différentes ont participé au Grand Marathon de Rome. Parlons à présent de champion du monde de Log Life, remporté par Sheikh Ahmed Al-Hassan Samnou samedi en Écosse. Surnommé Iron Dibi, l'athlète a battu le record de soulevé de bûche avec une charge de 229 kg. Le Burkinabé vient de réaliser son rêve, battre le record mondial de sa discipline à 29 ans et promet de garder le cap. Terminons par le rugby et les commotions cérébrales. Ancien talonneur Steve Thompson n'a plus aucun souvenir d'avoir été sacré champion du monde de rugby en 2003 avec l'équipe d'Angleterre dont il avait joué dans les matchs. Atteint de démence précoce, le joueur de rugby anglais a annoncé le jeudi 23 septembre qu'il ferait don de son cerveau à la science à sa mort pour aider contre les lésions traumatiques. L'ancien joueur fait partie d'un groupe d'anciens joueurs atteints de troubles cérébraux qui ont lancé une procédure judiciaire contre diverses autorités du rugby pour négligence en décembre 2020.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Yeah.